Je suis en admiration devant cet avion. Quand on sait que les ailes de cet avion, elles sont tenues par quatre boulons, la dérive, eh ben c'est pareil.
Et bienvenue dans Jump Seat, je disais, bienvenue à tous, merci à tous d'être présents dans votre émission aéronautique favorite. Salut Raphaël.
Bonjour Jérôme.
Il est parmi nous, il est commandant de bord sur ATER. Je vous montre ce que c'est qu'un ATER, avion de transport régional. Voilà ton bébé, ton amour aussi.
Moi je dirais même, c'est ma maîtresse à ce stade-là.
À ce point-là ?
À ce point-là.
On va partir en voyage avec toi Raphaël, t'as fait énormément de choses. Première question Raphaël, comment ça va déjà de revenir en France ?
Moi je suis très content, c'est un pays merveilleux, même si beaucoup de nos compatriotes ne sont pas heureux en France. Mais bon, quand on a fait le monde comme j'ai pu le faire, on a une chance incroyable, on a un pays incroyable, je suis heureux.
Pourquoi t'as choisi de partir à l'étranger ? Exercer ton métier.
J'ai eu les opportunités tout d'abord. Ensuite, j'ai vécu quand j'étais jeune déjà à l'étranger beaucoup. J'ai toujours été attiré par le monde et bon, il y a aussi une raison salariale. Il y a l'aventure, c'est l'aventure. Et certes, un confort de vie dans une grande compagnie m'intéresse, surtout aujourd'hui, il m'intéresse un peu plus. L'aviation, c'était avant tout, c'était de pouvoir bouger, de pouvoir voir autre chose, un peu faire comme nos grands-pères.
L'aventure. Le vol.
Une aventure, oui, voilà.
On va rester un petit peu dans des belles histoires assez chaudes, là. Cette histoire de militaire, là, que j'ai lue au début de l'émission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce militaire, là, Raphaël ?
Alors, on volait sur Djouba, et Djouba, la capitale du Sud-Soudan, qui était un terrain où il y avait un parking un peu isolé où il y avait à côté des avions cargo russes qui déchargeaient, ben, je vous le cache pas, sans doute des armes. Il y avait des militaires, on peut pas parler de militaires parce que c'était pas un pays encore à cette époque-là. Pour ça qu'il y avait les Nations Unies. Sur ce parking, on déchargeait les passagers qu'on avait, qui était il faut imaginer un parking avec plein de trous, de nids de poules. Donc, on avait les pieds un peu dans l'eau. J'avais des stewards qui partaient fumer. Et qui avait l'habitude avec les miliciens de partager des cigarettes. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce fameux Jimmy, qui était un steward, qui était tout maigrichon, est devenu blanc comme un linge quand il s'est fait attraper par un militaire qui est devenu incontrôlable, qui est devenu fou, qui voulait absolument l'embarquer. Alors, je ne sais pas, c'était pour le rançonner, pour son paquet de cigarettes. Mais on m'a appelé tout de suite parce qu'en étant le capitaine, j'avais l'autorité. J'ai pris mes fonctions avec cœur en jouant du galon, si je puis dire. On l'a exfiltré, on l'a remis dans l'avion et j'ai demandé tout de suite à la sécurité des Nations Unies de prendre le dessus. Donc ils sont arrivés assez vite et on l'a mis au calme.
Quand on est commandant de bord, qu'il se passe des choses comme ça, c'est tendu. Hein, là, c'est pas un vol de ligne avec des passagers. T'as eu peur là ? Non, on sait jamais ce qui peut se passer dans la tête d'un.
Alors lui a eu peur. Moi, j'y suis allé au culot. J'ai complètement mis tout de côté. J'y suis allé. Je l'ai pris. J'ai roulé pas des mécaniques, mais bon, j'ai quand même montré que j'étais le commandant de bord. Ils respectent beaucoup les grades là-bas. C'est l'Afrique. J'ai pris le gars. Je lui ai dit que c'était comme ça, que c'était ma décision, qu'il y avait pas. Je faisais perdre du temps au gars. Et le gars, on l'a exfiltré. Donc on l'a fait passer entre nous derrière. Il y avait des gens qui étaient attaché aux Nations Unies qui étaient là, mais on n'avait pas la sécurité encore. Ça a mis une dizaine de minutes. Et
ça s'est bien terminé quand même.
Ça s'est bien terminé. Bon. Ça s'est bien terminé, mais moi après j'ai refusé de parquer mon avion à cet endroit-là. J'étais un des rares, j'ai tenu tête à tout le monde, j'ai dit c'est terminé, on ira côté Nations Unies.
Curieux d'écouter le retour d'un pilote d'ATR de la part d'un ingénieur ATR qui participe aux évolutions actuelles de la machine.
Comme je disais tout à l'heure à Jérôme, je tire mon chapeau aux ingénieurs de chez ATR qui ont fait un produit merveilleux. J'en parle très souvent parce que j'ai traversé beaucoup d'orages, de tempêtes et c'est un avion qui est costaud, qui est bien fait, qui est très bien fait. Quand on sait que les ailes de cet avion, comme beaucoup d'autres avions, mais celles-ci, elles sont tenues par quatre boulons. Quand je discute avec des stagiaires, ça les surprend beaucoup. On a quatre boulons, chaque point cardinaux de la carlingue qui touche les ailes. Et la dérive, eh ben, c'est pareil. Il y a deux gros axes qui tiennent la dérive, qui est relativement impressionnante. Et donc, faut pas jouer du pied, si je puis dire. Je m'amuse souvent à expliquer ça à mes stagiaires, parce que je suis instructeur. Donc, regardez, vous mettez deux doigts à même la base, et puis vous amusez à bouger un plan aussi important. Vous pouvez comprendre que les contraintes sont importantes au niveau
de la jonction de la dérive, hein, surtout que c'est un empennage en T, donc ça travaille pas mal. Je suis en admiration devant cet avion qui est pour moi l'avion qui devrait être obligatoire sur toutes les transversales en France. C'est un petit clin d'œil ça, ma compagnie.
Ce qui est chouette dans tout ça, c'est que tes histoires, tes aventures, et comment ne pas être marqué, quoi, tout ce que tu as vécu au Soudan. T'as cassé du matériel. Comment ça se passait là ?
Alors, je n'ai jamais rien cassé, Dieu merci. Je me suis retrouvé sur des pistes en latérite et après un orage, ça dégueulasse pas mal l'avion. L'avion n'était pas équipé d'un ventre mou, hein, ce qui est une protection. Alors ventre mou, c'est une option qui est collée sous l'avion et qui absorbe les pierres, toutes les projections sur les pistes non préparées.
Sur la terre ?
Sur la terre, oui, c'est une option. Alors, j'ai eu ça sur le 42. Ça alourdit l'avion de 300 kilos à peu près. C'est une espèce de plastique. Ça absorbe les chocs.
Bon, là, il n'y en avait pas.
Alors, il n'y en avait pas. Donc, j'ai trouvé des impacts de pierre qui avaient percé les Karman d'emplanture. Hein. Celui-ci, c'est à Djouba. L'aéroport avait des parkings avec des pierres assez saillantes, un goudron qui n'avait jamais été terminé sur cet aéroport dit international. Et donc, je pense que ça a attaqué. On voit on dirait que ça a été mâché sur les côtés. Donc, je pense que quand c'est posé sur la latérite, la faiblesse du pneu a lâché à cet endroit-là. Ce qui m'a valu un jour de me poser sur un terrain à Rumbek et de devoir repartir avec un pneu dans cet état-là, c'était soit la nuit dans un terrain entouré par des rebelles et assez dangereux, donc on m'avait déconseillé de rester, ou soit de se poser à la lueur des phares de voiture avec un ATR, que je trouvais un petit peu hasardeux à l'époque. Même si la piste faisait 2300 mètres, ça m'intéressait sans trop quand même m'intéresser, parce que bon, il faut savoir prendre des risques, mais pour des bonnes causes, parce que prendre du risque inutile, hein, ça sert à rien. Non, le rester une nuit à Rumbek avec 70 personnes à bord, ça m'embêtait. On avait pris une décision un petit peu limite. Donc il m'arrivait aussi de me poser sur un terrain. Donc notre base, c'était Wahoo. Hein. Wahoo, ça porte bien son nom, si je peux faire un jeu de mots. Je me suis retrouvé avec un avion, une fois incontrôlable, à cause d'un centrage pas bon. Donc en réduisant, on avait une piste de 2300 mètres en latérite. Et l'avion ne répondait plus en profondeur, parce que vraisemblablement, le centrage était trop avant. J'ai perdu le contrôle, j'ai dit à mon copilote, l'avion ne répond plus. On va remettre de la puissance. J'ai compris ce qui se passait assez vite, et bon, l'avion est redevenu pilotable en assiette, et on a remis les gaz. Et puis pendant la remise de gaz, on avait un autre problème, c'est qu'il y avait des oiseaux, des vautours et des marabouts. Et donc, on a remis les gaz et la peur, c'était de percuter ces oiseaux. Donc, il a fallu faire une espèce de virage pour éviter et se représenter sur la piste en approche avec une vitesse que j'avais augmentée forfaitairement de 10 nœuds, je me rappelle à peu près. Donc là, on a posé l'avion.
Alors, Raphaël, donc toujours sur le Soudan, tu as eu quelques frayeurs d'après ce qu'on peut voir. Moi, ce qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est les atterros où on te proposait d'être guidé par des phares de voiture.
Quelquefois, on faisait des longues étapes, hein, plusieurs fois. On desservait des terrains des Nations Unies. Ce retard, c'était soit le choix de se poser au phare en réparant le pneu, soit de partir. Il y avait plusieurs choses, plusieurs facteurs qui m'ont fait éviter ça. Je voulais pas tenter le coup.
Rappelle-nous, Raphaël, exactement, quelle était ta mission au Soudan ? Parce que voilà, c'était pas du vol de ligne là. Tu devais être prêt à aller n'importe où, n'importe quand.
Presque. Le Soudan, les Nations Unies à l'époque... Il y avait une partition entre le Soudan du Nord et du Sud qui s'est établie, et les Nations Unies étaient là pour faire l'arbitre à ce niveau-là. Je pourrais aider aussi à que tout se passe bien, sachant qu'il y avait du pétrole sur la ligne de démarcation. On travaillait pour Swift Air. Donc Swift Air a été mandaté par les Nations Unies. Il y avait d'autres compagnies. Il y avait beaucoup de monde là-bas qui travaillait donc pour les Nations Unies avec des avions peints en blanc. C'est la condition. Donc, il y a des hélicoptères, des avions. Il y a des Canadiens avec des CRJ-200, d'ailleurs, peints en blanc. Il y en avait deux. Il y avait deux ATR. Donc, ça, c'est un ancien Britair, ça, cet ATR que j'ai connu avec la porte avant. C'est un grand luxe. C'était très, très sympa d'avoir un ATR avec un escalier escamotable. C'est une option qui est toujours proposée par ATR sur les avions. Ça n'intéresse personne, bizarrement. Et il y a la porte de soute qui n'est pas là où on voit les UN. Elle est à l'opposé, elle est côté copie, et la soute est un peu plus petite peut-être, et elle s'arrête juste à l'issue de secours.
Là, on te voit, on te voit en vol. Approche à vue à Kagugli, base 24, gauche, piste sur le quart supérieur du pare-brise.
Ah, et c'était d'approche à vue, il fallait faire attention à plein de choses, ouais.
En gros, toi, quelle était ta mission? Tu transportais des militaires, tu faisais de l'humanitaire?
Je transportais des militaires qui étaient en mise en place sur des sites. Donc j'avais des militaires en armes très souvent avec leurs fusils. Je me rappelle les avoir gardés à bord.
Alors là, il faut savoir que voilà,
imaginez une Kalachnikov.
Avait une Kalachnikov, hein, avec ouais. 47 là dans les mains. Pourquoi? Voilà, enfin, ouais. Qu'est-ce que tu... Bon, t'as posé un peu pour la photo, mais il y avait des armes à bord.
Je me suis retrouvé avec 5 Kalachnikovs. Il fallait les mettre à l'abri. Et là, moi-même, je m'improvisais. Je prenais toutes les armes avant de monter à bord. Et je demandais une vérification des chambres et du percuteur, un chargeur à part. Et je vérifiais moi-même toutes les armes.
Et tu faisais l'inventaire des armes avant chaque vol?
Voilà, je les mettais dans le cockpit. Alors, le cockpit, on a une porte qui est blindée. Et c'était la seule façon de faire réglementairement transporter ses armes, donc en poste derrière le commandant de bord.
T'en avais combien alors là d'armes?
Là j'ai eu 5 Kalachnikov et j'ai eu des armes de poing pour les gardes du corps, parce qu'on transportait aussi des gens des Nations Unies assez haut placés. À l'époque c'était le numéro 2 des Nations Unies que j'ai eu à bord. On transportait des responsables.
Donc c'était tendu quand même l'ambiance, j'imagine.
Il y avait un certain risque. Ouais, ce que j'avais peur, c'était... J'avais peur des armes légères, parce qu'il y a beaucoup d'armes légères au Soudan, et de me retrouver un coup de Kalachnikov dans une tôle qui fait quelques millimètres, ça fait des dégâts. Surtout sur un avion pressurisé.
Mais raconte-nous, comment tu peux exercer ton métier sereinement? Parce que tu dois quand même... T'es commandant de bord, donc tu es responsable de tout ce qu'il y a à bord, que ce soit humain ou matériel, comme des armes. Tu dois gérer ton vol, bon, t'es en équipage, tu sais pas tout le temps parfois un peu au dernier moment où est-ce qu'on vous devait aller, les missions, les... Comment toi tu gérais tout ça?
Comme un commandant normal, en prenant le temps d'analyser un peu tout ce qu'on m'amenait devant. Les armes, c'est une étape, mais après, il y avait les endroits où on allait, étudier quand même un petit peu la piste, les photos. On avait des photos des pistes, des rapports sur l'état de la piste.
On en voit une en photo,
voilà,
là.
Donc là, c'était toujours waouh, avec une belle flaque d'eau, et encore, il y a eu plus que ça. C'était des terrains qui comme ça s'appelle, ne sont pas clôturés. Donc une fois, un jour, juste au moment du flair, j'ai dit « Oh, bon Dieu !» Et là, je vois une vache apparaître des buissons, parce que comme vous pouvez voir, il y a des buissons là à côté. Elle a traversé, elle est arrivée au niveau du saumon d'elle.
Donc c'était arrivé en approche d'avoir de l'inattendu sur la piste, des présences.
Oui, ou alors des femmes qui traversaient avec leur paquetage sur la tête en bout de piste. Donc on avait quelquefois la tour qui nous disait, mais de moment ils ne voyaient pas. Et là, ils ont bouché les trous. En fait, les trous, là je crois qu'ils avaient mis du ciment, parce qu'on avait des trous qui, on dirait que... Ce sont des flaques d'eau. Et ils ont bouché après avec du ciment rapidement certains trous.
Il y avait des pistes plus ou moins hasardeuses, soit par leur état, soit par la présence d'animaux ou de personnes qui traversaient. Mmh. Et il y avait plein de surprises une fois au sol. On va revenir un peu après sur les navigations, les GPS. Hein. Là, restons au sol sur les pistes. Donc tu t'es posé et tu fais parfois des rencontres un petit peu inattendues. De machines de rareté. J'ai vu aussi passer des photos où il y avait des avions. C'était quoi ça?
Alors ça, c'est des restes d'une guerre civile, vraisemblablement. On m'a expliqué que ces avions étaient utilisés pour bombarder les populations récalcitrantes de l'ouest du Soudan. Ils utilisaient des bidons, c'était rempli d'explosifs, de gasoil et de clous, et c'était balancé sur les populations. Et ça m'a effaré. Donc ces avions ont eu des accidents à l'atterrissage. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, j'ai été un petit peu les voir de près. Parce que je trouve que les avions ont toute une poésie, c'est comme des dinosaures. Ils ont une histoire, et puis ces avions un peu étrangers, un peu mystérieux, ces avions russes. Hein.
Voler en Afrique est toujours sportif, nous dit Lapinou 03, tu confirmes?
Ouais, c'est sportif.
Et là sur le toujours sur le Soudan, elle est chouette aussi cette image là. Maintenant sur les ULM, on a des avioniques encore plus sophistiqués que ça.
Oui,
c'était très basique là. Hein. T'as des cunimbes en face.
C'est le cockpit du 500, ça. À l'origine, c'est du RCA, les premiers écrans que ça a été repris après par Benedict, je sais plus, mais bon. Mon oncle a travaillé là-dessus quand il était ingénieur chez eux, et ça n'a pas bougé. C'est un peu ce qu'il y a sur les 757 hein, aussi, hein, c'est des écrans, des petits
Boeing
écrans.
Boeing 757.
Ouais, Boeing 757.
Donc là, on a tout. Hein. ça se passait comment en vol là au Soudan alors?
Faut chercher le trou de souris, hein. Plusieurs fois je l'ai fait. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que la Terre est très très bien faite. On a un très bon radar, un radar sur lequel on peut compter. Il faut jouer un petit peu avec. Sur le 600 c'est beaucoup mieux parce qu'on peut mettre deux échelles différentes. Et là on est astreint à un seul bouton pour mettre une échelle de distance qui nous permet d'agrandir ou pas. Là on a la même échelle côté copie et côté commandant de bord.
Écran à tube cathodique.
Ils ont sorti d'ailleurs les mêmes en LED, il paraît. Maintenant, on peut remplacer les cathodiques par des LED sur le 500.
Tu volais combien d'heures par jour? Enfin, ou tu volais tous les jours? Comment ça se passait?
Oh, tous les jours.
Tous les jours, il y avait des vols?
Il y avait des repos ouais. À Khartoum aussi, ouais, ouais. Ce qui m'a valu de visiter la ville.
Mm-hmm. Il y avait un peu des moments pour t'étendre quand même.
Oui, oui, oui.
Revenons un petit peu quand même sur ton parcours, Raphaël. Donc, tu as choisi le métier de pilote de ligne très jeune. Tu as passé ton brevet de pilote privé d'abord, ton PPL, ici à Bron, je crois. Comment tout a commencé hein?
En 88, j'ai 88. Commencé à l'aéroclub de Morestel en Isère, où j'ai eu la chance d'avoir un instructeur, Michel Dechaume, qui a été bijoutier de formation à l'origine et qui est passé au CFA et qui faisait l'instruction bénévole dans mon club. C'est comme ça que j'ai pu commencer à piloter sur rallye DR400. Et j'ai fait du vol à voile au tout début parce qu'il n'y avait pas de place pour la section avion, donc j'ai commencé au vol à voile, j'ai adoré le vol à voile, et puis j'ai travaillé en usine pour me payer mes heures, et je suis passé, donc j'ai fait un PP l'aéroclub du Rhône, avec un monsieur, Jacques Curtillac, et Jacques m'a fait passer donc mon PP. C'était possible en club à l'époque. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont aidé dans la suite. Parce que pour faire l'Afrique, pour faire tous ces terrains, et j'avais une certaine aisance. J'aurais fait ça aujourd'hui dans une école où tout est...
formaté.
On est formaté et puis on est formé sur des gros terrains en avion léger. Nous, on se posait un peu dans la pampa, un peu partout avec des Cessna. Donc ça m'a déjà bien formaté. Puis j'ai eu des aventuriers qui sont venus faire leur pépé, qui partaient en Afrique, dont j'ai rencontré déjà des gens un peu intéressant si je puis dire. Voilà, et donc j'ai continué de bosser, et puis j'ai passé mon IFR en 96, j'ai pas pu me payer après mon PP, donc j'ai attendu 95.
Alors précision, l'IFR, vous le savez certainement tous, hein, c'est la qualif là pour voler aux instruments. D'ailleurs, ce qui vous permet de vous poser, de voler sans visibilité, vous poser aussi sans visibilité ou très peu. Là, alors comment ça s'est passé? Alors, parce que là, t'as eu le PPL. T'as eu envie d'en faire ton métier, donc, si j'ai bien compris.
Exactement. Très vite. Avec le PPL, le CPL, le CPL que j'ai passé en club, je pouvais pas faire grand-chose à part faire de la banderole.
Donc CPL, c'est pour être pilote professionnel.
Ouais, du remorquage, oui, de banderole, c'est tout. Et puis de la photo aérienne, ce qui n'était pas facile. Donc j'ai un peu économisé et puis j'ai fait mon IFR, et j'ai fait une MCC après qui m'a servi à pas grand chose sur un Cheyenne.
On peut dire avec qui t'as appris l'IFR?
Alors, l'IFR, oui, je l'ai fait avec un
ancien militaire.
Un grand monsieur que j'aimais beaucoup, Bernard Borella. C'est un aviateur dans l'armée. Un vrai aviateur. Il est passé de simple troufion, si je puis dire, à lieutenant-colonel. C'est un des rares pilotes à avoir posé un Mirage 3 contre QFU après une panne moteur. Il en était assez fier et je peux le comprendre parce que c'est un fer à repasser. Finesse 4, je crois. Donc, il m'a permis de faire cet IFR. Après coup, donc, j'ai fait ma MCC, la Multi-Crew Coordination.
Plus le chiffre est élevé de la finesse, plus l'avion plane loin. Finesse, tac. Alors, c'est pas un planeur, c'est un ATR.
Exactement.
L'avion est à 1000 mètres. Ouais. Il a une finesse 6. Qu'est-ce qu'il peut faire?
6 km à 2000 mètres.
Donc, si les moteurs tombent en panne et que l'avion est à 1000 mètres de hauteur, il peut planer sur 6 km.
Voilà.
Finesse 6.
Alors, un Mirage, chez moi, hein, c'est 3 ou 4.
N'est-ce pas, monsieur Krin? Donc, et plus c'est élevé, il y a des planeurs qui ont des finesses de
60. On atteint les 60, et plus énorme. Maintenant, parce que moi, j'ai arrêté le planeur à l'époque, mais je pense qu'on a dû atteindre le maximum déjà il y a un petit moment, aux alentours de 60 de finesse. Ouais. Ce qui est assez extraordinaire, on n'a pas l'impression de descendre quand on est dans un planeur à 60 de finesse, et ça fait un bruit d'avion en réaction. Il y a le faux frottement, le sifflement du vent sur les profils. Hein. C'est magique. Et puis quand il y a des oiseaux qui se mettent avec vous, des bus,
des rapaces
et des cigognes, tout ça, c'est encore plus magique.
Tu voulais en faire ton métier tout de suite, hein. Le fait d'aller te poser sur des pistes courtes un peu partout, le barouder.
Oui.
Bon, t'as voulu faire l'IFR. Et après, l'ATR est entré dans ta vie.
L'ATR est rentré dans ma vie, oui. J'ai fait le sacerdoce avec lui. En 99, j'ai fait chez Icar, une équipe très très sympa chez Icar. J'ai rencontré des gens très sympas, j'ai adoré. Ça n'a pas été facile parce que quand on commence et qu'on vient d'un avion léger, se former sur un gros moustique comme ça, ça surprend.
Qu'est-ce que tu voulais faire à ce moment-là ?
Faire du jet, ça me semblait un petit peu utopique. J'ai beaucoup d'amis qui sont passés directement sur jet et puis moi je m'étais dit faut être réaliste. Moi j'ai fait tous les échelons, tout ce qu'il y avait à faire, j'ai monté tous les grades et puis la Terre pour moi c'était naturel d'en faire.
Mais tu voulais déjà partir à l'étranger, donc qu'est-ce que tu voulais faire à ce moment-là ?
J'ai pas de vision spéciale. Il me semblait que c'était plus simple de voler sur Ather que sur jet à l'époque. Quand j'étais en formation, j'ai eu une offre pour aller travailler au Danemark. Le gars m'a dit, le directeur de Danish Air Transport, à l'époque, c'était sur les premiers chats sur Internet. Moi, j'utilisais déjà beaucoup Internet, contrairement à beaucoup de mes collègues, ce qui m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai rencontré sur Internet ce monsieur qui cherchait des pilotes pour sa nouvelle flotte qu'il créait. Donc, il avait acheté un Ather. Remplacement des Embraer 120. Donc au sortir de ma calée, je suis parti voler au Danemark. Donc au Danemark, je suis parti en Angleterre et ça n'a pas été facile parce qu'à l'époque, je baragouinais l'anglais. J'avais une formation comme on en a en France. Parler tous les jours en anglais, c'était pas chose facile. Et là-dessus, il m'a basé en Angleterre et il m'a fait voler sur Beach 90 un petit peu en attendant que la Terre soit opérationnelle. Et j'ai adoré parce que je passais en combinaison avec mon collègue, l'impression d'être des pilotes de la Seconde Guerre mondiale dans la pampa anglaise. J'adorais ces cottages qu'on traversait et on partait voler à partir de Londres, Southend, qui était un petit terrain à l'époque, et on partait faire la livraison de journaux en Beach 90.
Juste pour vraiment bien resituer un peu comment tu as choisi un peu l'aventure, un choix de vie, et comment l'aventure aussi est venue à toi. Parmi tes premiers jobs, tu faisais de la banderole.
Oui, la banderole. Hein,
ça t'as fait ça dans le sud-ouest, je crois. Il y a eu des frayeurs aussi là. Hein. Raconte-nous un petit peu, Raphaël. Donc, je rappelle, la banderole, ça se fait plus d'ailleurs.
Non,
maintenant.
Ça a été interdit.
Vous savez, les grandes banderoles de publicité qu'on voyait passer au-dessus des plages en vacances. Hein.
Ouais. Ben, j'ai fait la banderole, oui, avec Action Communication. Et j'avais choisi de partir déjà à l'époque. Je pouvais être basé à Cuers pour faire la Côte d'Azur. Et on m'a proposé tout de suite de faire itinérant banderole sur l'Atlantique. Et surtout le littoral français qui me permettait de terminer justement à Cuers. Donc j'ai survolé tout le littoral français à 300 mètres. 300 mètres. Et donc je connaissais le littoral comme ma poche parce que je l'ai fait plusieurs fois. Et j'ai assisté en direct au crash, par exemple, du Proteus autour du France. Ex-France, Norways, j'ai donné l'alerte parce que j'ai vu ce qui se passait, j'ai compris tout de suite, j'avais tout entendu à la radio, la demande de l'équipage à faire un vol, faire un petit crochet à vue. Et puis j'avais demandé, moi j'étais à l'époque avec Lorient, je leur ai dit, il y avait des Atlantiques qui faisaient des touch and go, et je leur ai tout de suite dit, il y a un avion qui s'est crashé, envoyez les Atlantiques sur le site. Ça m'a beaucoup marqué cette histoire. Moi, je faisais ma banderole, je passais le travers Quiberon, ouais. Et quand j'ai vu le France avec tous ses avions en myriade, comme des mouches autour d'un étron, si ouais, je puis dire, je regardais ça et je dis, ils sont fous. Puis j'avais la fille qui voulait me faire du contrôle, je l'avais un petit peu rembarré, et puis après coup, je lui ai dit, mais un avion qui vient de se crasher, j'entends la radio, j'ai fait le relais, j'ai pris le dessus tout de suite. J'avais compris ce qui se passait, mais après j'ai entendu, mais il y a un logo Air France dessus, c'était le Beach 1900 de Proteus ouais, qui s'était abîmé en mer, avec un cardinal, et ils se sont tapés.
Bon, quand on est jeune pilote, ça marque déjà de témoin de tout ça.
Ça m'avait marqué.
T'as fait ce métier, enfin ce job de banderole, mais raconte-nous un peu ces techniques. Il faut aller accrocher la banderole au sol. Il y a une histoire de retour d'expérience par rapport au câble.
Exactement. Donc, on avait une banderole avec un câble qui était mis derrière l'avion dans une gaine, et on nous avait dit que le câble ne pouvait pas, contrairement auparavant, s'entourer autour de la profondeur. Et donc, très confiant là-dessus, j'avais fait des essais, ça me semblait cohérent. Et la banderole, en fait, on la met à l'opposé, quand on va l'accrocher, on met la banderole à l'opposé du décollage, des grosses banderoles, des gros panneaux, comme on dit. Et on passe entre deux piquets avec une corde, et comme sur un porte-avions, si je puis dire, avec le grappin qui pend à 2-3 mètres en dessous, on passe, on accroche la corde, qui fait un Y, qui va sur la banderole, et on remet les gaz, on met une assiette et on attend le choc, en fait. Et la toile s'enroule autour pour monter et se met droite. Et donc, il y a une traînée additionnelle. Et avec un rallye, il n'y avait pas de souci. Je l'ai fait plusieurs fois, et moi, je l'ai fait en indépendant. La première fois que je suis parti sur le littoral, Je suis parti pour accrocher ma banderole, je n'y arrivais pas, et j'ai une personne qui volait avec l'hélicoptère des gendarmes, qui attendait l'hélicoptère le départ, et qui est venu voir la technique d'accrochage. Il a prévenu la tour en disant que mon câble était accroché autour de la profondeur. J'étais à mon troisième essai, et je lui ai dit, le quatrième, ça va être le bon. Et j'avais entendu ça à la radio, et ça m'avait interloqué. Je me suis dit, non, c'est pas possible, ça peut pas s'accrocher autour de la profondeur. Au moment où j'ai réduit, et là j'étais très très faible en vitesse, j'ai senti ma profondeur qui était un petit peu différente, et là j'ai donné un coup de tatane. Et sur le rallye, on peut donner des coups de tatane, et j'ai regardé derrière, j'ai vu, horreur, le câble pendant du bord d'attaque. Et là, j'ai dit, écoute, on arrête, je ferai pas la mission, j'étais en retard, je ferai pas la mission, j'ai décroché, je me suis posé, j'ai remballé mon matériel. J'en avais parlé à l'époque. Mais l'information n'avait pas suivi, et j'ai un collègue qui, en faisant de la banderole, ils étaient tous confiants parce qu'ils venaient du secteur de Queers et ils avaient une équipe au sol. Et moi, quand j'ai entendu que mon collègue avait eu le même problème, et lui s'est crashé, par contre il a eu la gouverne à piquer, s'est retrouvé avec un crash, ça m'a attristé, parce que c'est le retour d'information qui n'avait pas suivi. Donc le retour d'information pour moi est très très important, n'importe quel détail compte aujourd'hui en aviation.
C'est passionnant, parce que qu'est-ce que ça montre là, c'est que voilà, t'es jeune pilote là, c'est un de tes premiers jobs pilote professionnel, c'est dangereux un petit peu, il y a des risques quand même de faire du vol de banderole.
C'est un
risque. Il y a un câble qui s'est enroulé autour de l'aile, donc je rappelle à toutes et tous, le bord d'attaque, hein, c'est voilà, ici l'avant de l'aile, donc il faut imaginer que l'avion il a un câble derrière accroché pour prendre la banderole. Et le câble s'est venu s'emmêler autour de l'aile. Donc ça bloque les gouvernes.
La profondeur, à l'arrière. Voilà. C'est une profondeur basse, donc.
Plus logique à l'arrière. Pardon. Voilà. Et donc, effectivement, ça bloque les. Voilà. On peut plus trop manœuvrer l'avion. Et toi, tu l'as vécu aussi. Donc, tu en as fait un retour d'expérience. Le fameux Rex. Le Rex, hein, qui se fait aussi dans les écoles, dans les clubs. Hein,
c'est très, très important, oui.
De faire des retours d'expérience, même d'un petit problème qui peut sembler anecdotique. C'est toujours bien de partager avec la communauté des pilotes ce qu'on a vécu pour peut-être éviter des problèmes plus conséquents. Je te repose la question. Tu as quand même voulu partir, toi.
Il y avait une volonté, oui. J'ai toujours été attiré, j'ai fait ça, j'étais pas marié. Quand j'étais en Algérie, quand j'étais connu, je vivais en concubinage. Après coup, avec ma femme, on s'est mis d'accord, et puis j'ai pu vivre un peu ma passion, comme ça.
Alors, t'es parti en Algérie. On va voir 3-4 pays qui t'ont marqué.
Oui.
Et pour chaque pays, Raphaël, bon, tu vas nous dire quelles étaient tes missions, tes souvenirs les plus marquants, quelques anecdotes. La vie en équipage selon les compagnies, d'une compagnie à l'autre, j'imagine que ça diffère. Chaque compagnie aérienne a sa politique aussi de maintenance, de sécurité, de formation, la rigueur, la vie en escale. Alors l'Algérie, pour rappel, t'es parti là chez Khalifa Airways, donc cette compagnie qui est venue par un tycoon algérien, monsieur Khalifa d'ailleurs, qui avait des banques,
Moumen Khalifa.
Voilà, il avait les banques, les télécoms et la compagnie aérienne. Comment t'as atterri chez Khalifa Airways, Raphaël, raconte-nous.
J'ai eu une offre, après mon expérience en France, à venir travailler pour une société qui débutait. Et l'Algérie, j'avais vécu dans le passé avec mon père qui travaillait là-bas. Donc ça m'intéressait, j'ai dit ok. Et je me suis retrouvé donc avec des Français qui avaient une petite expérience ou pas d'expérience. Et on s'est retrouvé donc avec pas mal de monde. Il y avait Vincent Barizé, il y a des gens que je croise toujours sur ATR. J'ai fait 3 ans chez eux, 3 ans de bonheur à vrai dire, avec des gens extraordinaires que j'ai toujours en relation. J'en ai perdu certains de vue. Il y en a certains que j'ai reconnus en vol sur les fréquences quand j'étais en Inde. On a repris contact avec certains. Il y en a certains que je suis, à qui je n'ai pas donné de nouvelles aussi, mais bon, je suis un petit peu comme ça, voilà.
Alors, Khalifa Airways, t'étais sur ATR, donc compagnie aérienne, hein, transport de passagers, qui était basée à Alger, tu faisais beaucoup de routes intérieures.
On descendait dans le sud, on allait jusqu'à Sim Es Saoud.
Donc au sud de l'Algérie, c'est immense l'Algérie.
On faisait toutes les petites destinations, ce qui m'a permis de voir l'Algérie d'en haut, qui est un très beau pays.
Comment ça se passait? Parce que c'est que Khalifa, c'était une compagnie privée lancée par un tycoon, un banquier, un homme d'affaires. Comment ça s'est passé pour toi, l'intégration dans la compagnie, la rigueur
Alors, la rigueur n'était pas à l'époque la même que ce qu'il y a pu avoir, mais bon, il y avait les prémices d'une compagnie bien structurée. Il y avait la maintenance qui était faite par des gens qui venaient d'Air Littoral, de ce que je me rappelle. Donc, les avions étaient pas mal entretenus. Hein. Mm-hmm. On avait des avions neufs aussi. On avait des avions d'occasion sur les 42-320. On en avait 4 et on avait des 72-500 qui étaient tout neufs, mais qui étaient suivis par des mécanos d'Air Littoral, hein, qui venaient d'Air Littoral en règle générale, de ce que je me rappelle. Ils avaient des Airbus aussi qui étaient relativement récents. Et puis il y avait des compagnies qui étaient en Acme, des Turcs de Pegasus, qui venaient avec leurs pilotes, leurs mécanos. Et on a eu des Canadiens avec des 330 qui venaient avec leurs mécanos aussi.
Pour Khalifa.
Pour Khalifa, oui. Il y avait deux 330.
Comment se passaient tes rotations alors que tu étais basé à Alger ?
On avait quelques découchés à Oran, à Naba, à Sim et Saoud. Et après, on avait des rotations, alors je ne sais plus, les rotations un mois et demi, peut-être, on rentrait 15 jours. Mais c'était relativement facile parce qu'on avait la ligne, moi je prenais l'avion pour Lyon, c'était relativement facile de rentrer.
Oui, tu n'étais pas trop loin de ta famille là quand même, non, ça va l'Algérie.
Ma famille venait aussi.
La famille venait aussi.
Non, c'était très très agréable, donc je veux dire, ça m'a mis une bonne opinion de l'expatriation avec Khalifa, oui.
Expatrié, donc pour une compagnie qui se lançait. Donc, tu es resté combien de temps en Algérie ?
3 ans pratiquement.
3 ans quand même.
3 ans, oui.
Donc, ouais.
Bah, ça s'est terminé en mars 2003.
D'accord.
Non, mars 2003, ouais, je m'en rappelle bien, parce que c'est à l'époque où Jacques Chirac est venu à l'ambassade de France. On était conviés d'ailleurs. 3 semaines après, c'était la fin.
Ces compagnies là qui se lancées par des hommes d'affaires en plus à l'étranger. Alors attention, ça fait cliché, ça veut pas dire que les compagnies aériennes à l'étranger sont pas rigoureuses, mais c'était quand même, il y avait des pilotes du monde entier, c'était multinational.
Moi, c'était ma première expérience d'ailleurs quand j'ai eu un ami français d'origine serbe. Je lui avais demandé, mais t'es français toi ou un truc comme ça. Il m'en a reparlé il y a pas très très longtemps, et donc Igor était le seul international. À l'époque, on était tous entre Français. On parle tous le français. Igor parle le français, il parle des langues couramment, sans accent. On s'est tous retrouvés là-bas, on était un petit groupe. Moi, j'étais dans les premiers, avec une fille. On avait une fille, Corse, qui avait un sacré caractère. Et on nous avait demandé, vous les connaissez un tel ? Je dis non. Et puis, et donc, on était 2 ou 3 Français. Puis, on a coopté les CV. On a aidé au recrutement comme ça. On a dit, oui, ben, il a dû faire une bonne formation, un tel.
Vous étiez de plusieurs nationalités ?
Non, on n'était que...
Parfois...
On était qu'entre Français dans les pilotes franco-algérien et des commandants de bord qui étaient tous algériens, qui venaient d'Air Algérie. En règle générale, des pilotes qui étaient bloqués copilotes et qui en avaient marre parce qu'Air Algérie, c'était une grosse entreprise où ils n'avaient pas la possibilité d'évoluer. Des gars qui avaient volé déjà sur plusieurs avions, du 730, du Fokker 27, 737, 727. Donc on avait des gars très très expérimentés, des gars des manœuvriers qui savaient piloter. Les pilotes algériens, ça j'en ai gardé un bon souvenir.
Donc Khalifa avait débauché des pilotes d'Air Algérie, compagnie nationale.
Ça avait fait du bruit à l'époque parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. C'était une compagnie, l'Algérie était sclérosée avec sa compagnie nationale. Et puis après, il fallait créer tout ça. Il y a eu des gars qui sont venus, des Français qui sont venus comme nous là, et puis on nous a dit, ben voilà, on a le CV d'un tel, tout ça tu le connais, il y en a qu'on connaissait. Je me rappelle avoir vu tous ces noms et puis qui ont réussi, qui ont continué, qui aujourd'hui sont passés sur certains 340, 320, 380 aussi. Il y en a qui ont fait des belles carrières, ouais.
Et dans le cockpit, la culture aéro est, on va dire, peut-être sans frontières, mais est-ce qu'il y avait des fois dans la communication entre le commandant et le copie, il y avait des... Non, enfin, au niveau des procédures, justement.
Non, on suivait les procédures à terre et on n'inventait rien. Les procédures à terre sont très, très bien faites. Moi, je suis à terre depuis 20 ans maintenant. Ça a toujours été bien fait, toutes leurs procédures. Ils savent les faire évoluer au gré des changements de leur version, notamment avec le 600. Donc, ils ont uniformisé leur procédure entre les deux variantes.
Est-ce que tu as quand même un ou deux souvenirs marquants de tes années en Algérie ? Un vol qui t'a marqué plus que d'autres ? Une frayeur ou pas ?
Non, j'avais des commandants de bord qui me laissaient poser les avions parce qu'on se posait sur des pistes très étroites. Et ils me disaient, bon, écoute, je sais que tu adores ça, le vent de travers En atterrissage, je me débrouillais bien. J'étais manœuvrier aussi. Et j'ai des capitaines qui étaient nouvellement arrivés. Donc, ils me laissaient facilement poser les avions. Ça, je m'en rappelle. Notamment, c'est sur un terrain du sud où on avait la piste qui était à quelques mètres de la route nationale. Elle n'était pas plus large. Je ne me rappelle plus la taille, mais assez étroite quand même.
Donc, il y avait une confiance. Les commandants te laissaient. Tu demandais, toi ?
Non, ça se passait, c'était un autre état d'esprit. Par exemple, un truc que je me rappelle aussi, c'est que j'avais souvent les hôtesses qui défilaient dans le cockpit pour aller fumer. Ça, c'était un truc que je ne supportais pas. Et j'avais mon copain Momo, il fumait à l'époque. Moi, j'interdisais au capitaine de fumer. Je leur dis non, je m'en vais derrière, tu te débrouilles. Hein. Voilà, donc bon, ça s'est jamais fait, il est respecté.
Donc on pouvait fumer encore ? Là, on est au début des années 2000.
On pouvait fumer encore, exactement.
On pouvait fumer dans les avions.
Ou alors, j'avais eu une fois, je m'en rappelle très bien, d'ailleurs Momo m'a confirmé qu'il s'en rappelait, on a eu une alerte incendie à l'arrière, et moi ça m'a complètement... sur un vol sur Béjaïa d'ailleurs, très court, et on a le smoke qui s'est enclenché derrière. Il me dit, t'inquiète pas, il parle à l'hôtesse, il dit, tu peux vérifier la soute. L'hôtesse lui dit, oui, il n'y a rien. Donc d'accord, on s'est posé. Il lui a passé une chasse après, parce que ce qu'elle faisait, ça c'est... elle bouchait les détecteurs fumés avec des sopalins mouillés qu'elle mettait sur le cylindre de captation des fumées, par exemple. Donc ça, et j'en ai parlé des années après, il me dit, oui, je m'en rappelle, parce que lui aussi, ça avait dû le marquer. Moi, ça m'a marqué, parce que je m'en rappelle encore, mais c'était ma plus grosse frayeur en Algérie. Voilà. Mais il va passer une chasse. Ou...
Donc, il s'en est passé des choses sur Khalifa, quand même. C'est quelques souvenirs, là.
Oui, quelques souvenirs, oui. Bah, j'ai beaucoup apprécié les stewards et les hôtesses, des gens très qualifiés, des architectes, des vétérinaires, des infirmières qui faisaient ce boulot, parce qu'en Algérie à l'époque, toujours d'ailleurs, il y avait beaucoup de chômage dans la population qui est jeune en Algérie. Donc on avait de très très bonnes discussions tous. Donc j'ai gardé un très très bon souvenir de ces personnes.
Alors, donc il s'en est passé des choses en Algérie quand même.
Oui.
Et les équipages, tu nous as parlé des recrutements et tout ça. Ils avaient des SIMU, Khalifa Airways, la formation, tout était externalisé.
Oui, c'était sous-traité, on faisait ça à Toulouse. On faisait ça chez ATR.
Chez ATR, d'accord. Il n'y a pas une histoire aussi d'ambassadeur en Algérie, Raphaël?
Ce qui m'a valu donc sur un vol toujours Béjaïa, très court, avec Ali Bourala, qui m'a fait un petit coucou, j'ai vu sur LinkedIn quand il a vu le lien, donc il nous écoute peut-être. Il m'annonce, tu sais, on transporte l'ambassadeur de France qui est en visite à Béjaïa. Ouais, je dis, écoute, tu me permets d'aller le voir? Alors je lui dis en rigolant comme ça, t'as besoin d'un visa pour aller en France? Et il me dit, non, allez, c'est bon, vas-y, va le voir. Alors je suis allé le voir, on était en fin de montée, parce que c'est un vol très court, 30 minutes, on montait au niveau 130, 140, je sais plus, 14 000 pieds.
Ça fait 4200 mètres environ.
Oui, aux alentours des 4000 mètres, des 4000 mètres au-dessus du niveau moyen des mers. Je sors, et là je suis embêté, parce qu'on avait une première on avait une business class sur la TR à 72, et on avait un rideau... qu'on pouvait bouger suivant la configuration de mémoire. Et là, les quatre premiers sièges étaient occupés. Et devant, je me doutais bien qu'il y avait un ambassadeur, mais je ne sais pas lequel. Je me suis tourné vers les deux personnes qui me semblaient le plus à même d'occuper les fonctions d'ambassadeur. Et je me suis adressé donc à eux, en retournant vers les autres personnes sur ma gauche. Et je me suis présenté. Les gars étaient complètement effarés de voir un Français, parce que je leur ai dit salam alaikum. Ils m'ont regardé, on a discuté, et ils me disent, mais vous êtes Français? Je dis, ben oui, il me semble. Et je lui dis, écoutez, on m'a dit qu'il y avait l'ambassadeur de France en étant Français, je voulais vous saluer et puis avoir l'occasion de discuter. Il me dit, vous êtes combien de Français? Ben, je dis, on est une dizaine, il y a des Franco-Algériens aussi. Et il me dit, ben j'étais pas au courant de ça, mais comment c'est possible? Il faut rappeler que l'Algérie était un pays en guerre civile, hein, avec l'histoire du fils à l'époque. Je lui ai dit, écoutez, j'ai pas trop le temps de discuter, on se voit au sol. Et au sol, il m'a dit, on va essayer de se voir, mais je suis attendu. Donc après l'atterrissage, je me suis débrêlé et je suis allé discuter. On a un petit peu échangé, il m'a passé sa carte. Ce qui nous a valu d'être invités, parce qu'il m'a dit il faut qu'on rencontre tous les Français qui sont là-bas. Et j'ai organisé pour la communauté française de pilotes quelques apéritifs, enfin un apéritif à l'ambassade de France. Et puis après, on a été régulièrement invités. Il n'y avait pas beaucoup de Français à l'époque dans ce pays. Voilà.
Raphaël, tu es allé aussi au Gabon?
Alors oui, après Khalifa, je me suis retrouvé à reprendre mon boulot parce que j'étais agent de trafic avant d'être pilote. En attendant de retrouver du boulot, il y avait après la banqueroute de Khalifa, le secteur n'était pas super bon pour le boulot, surtout pour les copies. J'ai repris un boulot d'agent de trafic à Lyon.
avant de repartir au Gabon. Tu es dans une compagnie qui s'appelait Avirex. Comme les blousons, ouais. Avec un gars qui était dans le bois et qui avait décidé de faire autre chose que de l'avion de brousse. Donc il avait acheté des ATR pour faire certains vols. Il avait des ATR, des Fokker 28. Et j'étais venu faire le remplacement d'un ami sur ATR pendant 2 mois. Et j'avais bien aimé. Bon, on travaillait beaucoup. Il y avait là, par contre, pas de réglementation. C'était assez léger. C'est de la ligne. De mémoire, il n'y avait pas vraiment de documentation.
Les documents.
Des documents attachés à l'avion, oui.
Ouais,
les documents.
Ouais. Première expérience au Gabon, chez Avirex.
Oui, Avirex.
Donc là, on change un peu de registre. C'est pas du tout la même rigueur, la même...
Non, pas du tout. Aucun retour d'expérience, rien du tout. C'est l'aéroclub. Vous pouvez faire un peu de tout et n'importe quoi. Bon, j'en dirai pas plus. Mais bon, l'avion qui n'avait pas de GPS à l'époque, était en panne, HT1000. Non, c'est même pas des HT1000. C'est des KLN900 ou KLN90, donc des petits autoradios. Et ça marchait pas. C'était pas couplé à l'avion aussi. Il nous arrivait de partir avec. Il y avait encore des VOR à l'époque sur certains terrains et des ADF. Et donc, on partait à la montre. Et puis après, on faisait des cercles pour pouvoir trouver le terrain. Donc, ça, on l'a fait plusieurs fois.
Alors, des VOR, ce sont des balises radio. Hein,
des balises au sol.
Des balises au sol omnidirectionnelles qui permettent de faire des points de report pour les avions. Donc, ils se calent sur les balises. Ça permet de tracer leur route. Bon, maintenant. C'est beaucoup le GPS quand même. Hein,
c'est le GPS, oui. On tend à les enlever, c'est un autre débat, mais on tend à enlever tout aussi aujourd'hui. Donc le GPS, c'est fiable quand il n'y a pas de brouillage.
Donc au Gabon, première expérience gabonaise en 2003 pour Raphaël chez Avirex, une compagnie régulière qui exploitait 2 ATR. Donc tu t'es retrouvé ici à te dire où est-ce que je suis, non ? L'avion pas très bien entretenu, les manuels de vol n'étaient pas complets visiblement, il n'y avait pas de GPS ou c'était en panne. C'était ça ton quotidien, Raphaël ? Raconte-nous.
Eh ben oui, il y avait des impasses techniques. Ça c'est bon, l'Afrique. Hein, et puis moi j'étais copie, mais j'avais quand même des capitaines qui faisaient attention à tout ça, mais on était à la limite. Hein. Le Gabon est un pays quand même favorisé en Afrique. Donc, ce qui m'a permis de faire ces 2 mois avec plaisir. Bon, j'y allais pour faire un peu d'argent, reprendre aussi le métier parce que je m'étais retrouvé au sol pendant 6 mois. Donc, il fallait reprendre et c'était l'opportunité. Voilà. Sur un collègue qui ne pouvait pas partir en vacances, qui avait fait plus d'un an sans pouvoir rentrer en France. Donc, on travaillait très dur.
C'est un point intéressant, ça. Entre les missions, en général, tu changeais de pays. Parfois, tu retournais dans le même pays, comme l'Inde, on va y venir. Tu devais pas repasser de qualifs.
J'ai eu des simulateurs. Je faisais mes simulateurs par moi-même. Hein, je me débrouillais. Et voilà, mais je maintenais à jour mes qualifs. Et pour aller chez Avirex, on m'a pas demandé à faire un simulateur. On m'a mis dans la cockpit et je suis parti. C'était un instructeur de la compagnie, je me rappelle de son nom. On faisait des heures aussi. C'était... Il n'y avait pas de limitation sur les heures. Parce que si je le dis aujourd'hui, on va me regarder avec des yeux ronds, mais... On dépassait les 100 heures.
Par
mois.
D'accord, heureusement quand même, mais ouais. C'est quoi la moyenne là ? Faut pas dépasser.
C'est 900 heures dans l'année. Ouais. En Inde, j'ai dépassé ça dans l'année.
Okay.
Il a fallu que je leur dise que écoutez, on peut pas aller plus haut que ça. Donc après on peut faire glissant. Donc ça permet de faire un peu plus de 900 heures, mais bon. Il faut faire attention.
Bon, c'est pas ton meilleur souvenir, j'ai l'impression, là.
C'était non, un peu, aujourd'hui, voilà, bon, t'as fait 2 mois là-bas. Je pourrais pas le faire. C'est une qualité d'avoir quand même une réglementation et de s'y tenir. C'est très important.
On va rester sur le Gabon. Alors, il y a des pays entre, mais restons au Gabon parce que ce qui est intéressant, c'est que tu es retourné 20 ans plus tard.
20 ans plus
tard. Donc, il n'y a pas très longtemps. Donc, justement, là, tu étais sur le 600.
Je volais sur le 600 et je volais sur le 500. J'étais biqualifié parce qu'en étant instructeur, puis j'ai plus d'expérience récente sur le 600 quand je suis allé chez eux. Voilà, mais c'est comme la. Alors ça, c'est le nouvel avion qu'ils ont pris en juin 2022. Je suis allé le chercher à Toulouse. Et c'était avec le nouveau cockpit et nouvelle pressurisation NAMS, New Air Management System.
C'est l'ATR Neo, quoi, on peut dire.
L'ATR Neo, oui, on va dire ça. Ouais. Non, mais par contre, l'ATR a un point faible. Bon, c'est un avion avec un petit budget, hein, c'est pas un Airbus. Donc, ils ont réglé le problème de la climatisation. Ils ont pris un système Libair, je crois, une partie de la pressurisation Libair qui est montée sur des Airbus et qu'ils ont adapté sur cet avion et qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, l'avion est parfait. Il aurait 30 nœuds de plus, 30 à 50 nœuds de plus.
Il aurait un aérodynamisme un peu plus soigné. Je pense qu'on pourrait gagner les deux. Voilà, donc c'est la BW là-bas.
Tout récent,
c'est on voit que c'est le NAMS avec les petites grilles qui sont sur le cône. Là, on peut les voir là en alu. Là, on voit les petites. Juste après l'immatriculation, Flight Recorders. Là, on a les petites grilles. C'est ce qui permet de distinguer les nouveaux avec les.
Il y a des. Je montre ici sa petite souris, le petit pointeur. Là.
Voilà, et sur le puits de train, il y a aussi une sortie pour les packs qui se trouvent au niveau du train au-dessus, mais on le voit pas sur cette photo.
Alors j'en ai peut-être d'autres, des photos d'Afrijet. Alors là, Raphaël, donc t'es retourné au Gabon. Comment? Alors on te voit aussi au poste, hein, voilà.
Ouais.
Ça change de ce qu'on voyait au Soudan, hein.
Alors c'est un petit Airbus, il faut le dire. Et c'est un avion complexe. Donc je pense qu'ils n'ont pas de complexe à avoir si on leur propose un jour d'aller sur sur des écrans et fils.
Et donc le 600, c'est, au Gabon, c'était tes premiers vols sur le 600?
Non, j'ai volé en Inde.
Ah oui, t'avais
énormément
fait en Inde,
j'avais fait 2000 heures pratiquement.
Et alors Raphaël, là le Gabon, 20 ans après.
Alors Gabon,
qu'est-ce qui a changé en fait?
Alors je suis arrivé dans une compagnie qui est tenue par beaucoup de Français, enfin, on va dire. Et avec une structure très très EASA, ils sont certifiés, donc ils sont IATA et EASA. Tout n'est pas parfait, hein, bien sûr, hein, mais ils font des lignes nationales. Bon, par rapport à ce que j'ai connu au Gabon, on faisait beaucoup de petits terrains qui seraient aujourd'hui des pistes d'aéroclubs, si je puis dire. Ils ne les faisaient pas pour des raisons de sécurité, et on ne desservait que Franceville et... Port-Gentil, station pétrolière. Franceville, la capitale au sud, ancienne ville dont était originaire Omar Bongo, le fameux président du Gabon. Et il y avait des terrains comme Oyem, qui reprennent d'ailleurs très bientôt, ils reprennent Oyem, où il y avait des caravelles qui se posaient à une époque. Hein. Il y avait 2000 et quelques mètres de piste, et puis plein de petits terrains qui ont été laissés en désuétude. Et je me rappelle que quand j'étais au Gabon, ils avaient essayé, la compagnie, de mettre un camion de pompiers à Oyem, de fermer le terrain pour pouvoir le réutiliser. Et il n'y avait pas de volonté et il semblerait que ça soit débloqué. Là, ils commencent, je crois, le 7 mars à faire Oyem. Et ils font beaucoup d'international avec des ATR, qui est un avion qui n'est pas du tout adapté au-delà de 1h30. Cet avion n'est pas intéressant. Pour faire les pays limitrophes, ça va. Par exemple, quand on faisait le sud du Gabon, pour aller à Franceville, il y a 1h10 de vol, chargé à 23 tonnes au décollage, avec les températures de 30 degrés en moyenne, 30-32 degrés, c'était assez fastidieux de faire monter à l'intérieur de 23 tonnes, hein, parce qu'on partait à 23 tonnes. Et j'avais parfaitement confiance, ce qui n'était pas le cas 20 ans auparavant chez Avirex, parce qu'on avait des gens qui contrôlaient les bagages, les masses. Dès qu'on avait un doute, on faisait tout décharger. Et il y a eu des contrôles à l'arrivée, parce que y a des gens roublards aux escales qui chargent les avions avec le petit billet. C'est l'Afrique. Et donc, on vérifiait tout. Il y avait un suivi, un retour de tout. Et non, je peux dire que ça a été une bonne expérience. La plus mauvaise expérience que j'ai eue au Gabon, je peux le dire, c'est qu'on me mettait toujours mes jours off le mardi. Par exemple, je ne suis pas le seul à avoir remarqué ça. On ne vous aide pas, on n'a plus envie de rester. Donc, ça dégoûte. Hein. Je pense que c'était voulu.
Ben, c'est pas évident aussi travailler expat, on est loin de chez soi, c'est pas les mêmes cultures.
Voilà, il n'y a pas d'activité aussi au Gabon, on s'embête. Hein.
On va en parler des vols ferry. Alors justement, très bonne transition, on reste sur le continent africain, et pourquoi pas on ira à Quito après, parce que t'as aussi fait des ferries en Afrique. Tu devais convoyer un appareil jusqu'en Namibie, je crois. T'es retrouvé à Kinshasa, au Congo.
Pendant une période où je me suis retrouvé au chômage après encore une banqueroute, après l'Albanie, j'avais un copain. Je lui ai dit, écoute, t'es d'accord, si j'ai un ferry du jour au lendemain, tu viens avec moi, tu me laisses pas tomber. Oh, j'étais un bon copain, je l'ai cru, et j'ai pris une opportunité d'aller chercher un avion en RDC, hein, République démocratique du Congo, qui est un pays un peu chaud. Et on m'a demandé, pour un loueur d'avion, d'aller chercher chez Air Karzai un ATR 72. Et donc on est arrivé, on est parti un vendredi soir, la fleur au fusil, hein, et puis on est arrivé sur place. Et bon, les papiers n'étaient pas faits, tout ça, ça traînait. Samedi, les responsables de l'aviation civile n'étaient pas là pour signer les papiers. Et on nous disait, écoutez, on peut se débrouiller, hein, pour amener l'avion. Enfin,
Ah non, moi je dis non, je pars pas, je fais pas en plein de vol, je pars pas comme ça, il y a des choses à faire. Donc on a attendu sagement, et puis on a eu les papiers le dimanche matin. Dimanche, on est parti. On avait des docs. Bon, la doc, difficile à lire parce qu'elle était mal copiée. Et dans l'avion, bah, je me suis retrouvé avec un 72, avec un GNSS, si je puis dire, un GPS qui n'était pas du tout standard. Je ne connaissais pas le modèle. Il y avait que le clavier qui ne m'était pas inconnu, mais l'interface était différente. Et mon collègue qui était à côté de moi, plus âgé, Jeff, me dit, bah, écoute, démerde-toi, j'y arrive pas. Mais il fallait qu'on parte, on avait un timing. Alors on est parti et je préviens la tour de Kinshasa. Je leur dis, écoutez, j'arrive pas à lire la prochaine fréquence, vous pouvez me la passer. Puis ils n'ont pas l'habitude de passer le secteur suivant. Donc j'ai attendu. Puis moi, j'étais dans le GPS. Bon, j'avais réussi à rentrer des points. Et puis au moment de dire, écoute, je dis, il va falloir quand même qu'on contacte Luanda. Je regarde dehors et je dis, oh putain, on est vertical Luanda.
Capitale de l'Angola.
Capitale de l'Angola. Et je les contacte et je leur dis, écoutez, je vais arriver vertical, j'ai un petit problème de radio. Il me dit, bah, écoutez, rappelez en sortie, 200 nautiques plus loin. Ah ben, je dis, bah, il le prend bien, c'est bien, il n'y a pas beaucoup de trafic. Bah, je l'ai rappelé en sortie, bah, j'ai anticipé la sortie. Enfin, je l'ai appelé vertical en disant, bien après la verticale pour faire un peu de suspense quand même. Je l'ai rappelé parce que j'ai peur qu'on coupe et on n'entendait presque plus rien. Il me dit, bah, écoutez, appelez la Namibie. Donc on a cherché des fréquences sur les papiers. Et là encore, pendant, c'était un grand moment de solitude, on va dire. Impossible à contacter, on n'avait pas de HF, ça ne marchait pas. Et on s'est retrouvé donc à passer la frontière. Et là, on a une Namibienne qu'on arrive à voir sur la fréquence et qui nous a parlé avec un accent germanique et africain en même temps et qui nous a dit c'est pas bien ce que vous avez fait, il faut pas passer les frontières. Alors j'ai dit écoute, excusez-nous mais la radio ne marche pas. Et donc on s'est retrouvé j'essaie de lui passer un peu de pommade dans le dos. Et écoutez, c'est bon pour cette fois. Rappelez-moi quand vous arriverez à 150 nautiques de votre destination. Et vous allez où ? Je n'osais pas faire un jeu de mots. Je dis, bah, écoutez, on va se poser sur le terrain d'Eros. J'adorais ce nom, Eros. On n'allait pas à Windhoek, on allait à Eros. Bon, c'est pas érotique, hein, mais c'est pas un terrain rose. Mais par contre, j'ai été surpris, un super terrain avec des avions de malade. J'ai l'impression d'être aux États-Unis, plein de Cessna, Caravan, des avions de collection. Je crois même qu'il y avait un DC-4.
Ah oui.
Je suis resté un gamin et on s'est posé sur ce terrain. Et puis là j'ai un Allemand qui arrive et qui commence à me parler. Et puis là, je ne peux pas m'empêcher parce que j'aime bien faire le clown. Et je parle en allemand. Et il a été interloqué de me voir lui parler en allemand. Il était détaché de Mönchengladbach, où tu as une société de maintenance. Mm-hmm. Il était le responsable et on lui a laissé l'avion et on est parti dans un hôtel. Et là, j'ai découvert la Namibie, des routes. C'est, en vol, on avait vu les routes au carré,
magnifique
les paysages. Et j'ai dit, voilà, c'est là que je veux venir. Et à l'hôtel, c'est l'Afrique avec des hôtels nickel. Et on mange à manger de la charcuterie, des saucisses. J'ai l'impression d'être en Allemagne. Et les gens se parlaient en allemand. Donc j'ai parlé en allemand, j'étais content. Et ça m'a vraiment... je me suis dit, c'est un pays où il faut aller. Je veux y aller, c'est ça dans ma tête.
Bah, tu l'as survolé, tu t'y es posé. Mais vous n'avez pas, ouais, pas fait un détour par Kinshasa sur ce vol ferry?
Non, on est parti de Kinshasa.
Ah, vous êtes parti de Kinshasa, voilà, ouais, ouais.
Pour aller à Eros en Namibie, mm-hmm, pour livrer l'avion. Puis après, on est parti, on a pris un avion de Windhoek, qui est le terrain international.
Qui est la capitale namibienne, voilà.
Voilà, pour aller en Afrique du Sud, où j'ai retrouvé mon ami Chris, qui tentait sa chance en Afrique du Sud, bon, qui travaillait là-bas, coopté pour bosser là-bas. Et là, j'ai pris en retour un 380 d'Air France, un souvenir mémorable, seul vol en 380 d'ailleurs, où on a survolé tous les orages incroyables. Et le gars me disait, mais comment vous faites pour en Afrique? Ah, je dis, ça c'est le secret des gens sur ATR. On a un très bon radar, on passe entre les cellules.
Alors, voilà. C'est marrant ça, cette anecdote. T'es allé faire un tour au poste dans le 380, j'imagine.
Ah oui,
on demande tout le temps. T'as fait un jump seat là ?
Je me suis retrouvé dans le noir avec une hôtesse qui est arrivée et j'ai entendu son prénom et je lui dis, mais vous êtes Suzanne Lartigue. Et je lui dis son nom, elle m'a regardé et elle me dit, comment vous savez ? Ben, je lui ai dit, vous avez écrit un bouquin.
Et vous êtes une amie de Yann Toutaï, artisan pilote, et vous avez écrit sur votre métier. J'ai lu votre bouquin. Elle était toute étonnée. Donc voilà, le monde est petit. Et le commandant de bord, il se trouve que c'est le meilleur copain et le parrain de sa fille, d'un pilote sur ATR. Donc on a lié des liens, tout ça. Et le cockpit m'avait impressionné.
Ah oui.
Impressionné, oui, ça m'avait impressionné.
C'est ça la vie de pilote expatrié.
Oui, oui, bah
il se
tout
passe
ça.
Des choses en vol, au sol.
Le monde est petit.
Dans d'autres avions, ici un 380, voilà, qui vole bien plus haut que la Terre. Mais là, il y a plusieurs choses intéressantes. Tu as parlé tout à l'heure, cette machine, là, je la remontre, hein, la Terre. Donc là, c'est le 600, 72-600.
Ouais.
Tu l'as piloté un peu dans tous ces domaines de vol.
Ouais.
Très haute altitude, avec un terrain comme Quito. Je sais plus à quelle altitude c'est de Quito, mais
8000 pieds,
donc on est à 2500 mètres, enfin un peu moins, 2300. Ouais. Hein. Décollage sur des pistes très élevées, vol en Afrique entre les Cunimbes, en dessous, enfin je vaut mieux, voilà, avec de la chaleur, d'humidité. En fait, cet avion, il se pilote, il se comporte très bien partout. Tu parlais toujours de confiance envers cette machine.
Bah quand j'étais, quand j'ai été lâché du capitaine, j'ai fait mes premiers vols en Suisse, en Europe. Je me suis retrouvé à attendre à l'ouverture de Zurich avec, il y avait au-dessus de moi un 330, un 340, un 747. On était tous empilés et on arrivait le matin. C'est les avions qui attendaient pour se poser à l'ouverture du terrain. Et là, je givrais comme un malade. Et là, on se passe en revue tout ce qu'il faut faire pour un avion qui est réputé dangereux. Alors, je dis réputé parce que pour moi, si on suit les procédures, il n'y a aucun problème sur cet avion. On connaît ses points faibles, on les évite. Et en respectant les procédures, il n'y a pas de problème. Et on a dû charger au moins 4 tonnes de glace sur l'avion parce que sur le pare-brise, il y en a de partout. On a une sonde de captation de glace à côté du commandant de bord. Elle était avec 10 cm de glace sur le côté. Et là, je réfléchissais un petit peu à ce qui allait se passer si on restait. Et je commençais à leur dire, écoutez, il faut qu'on sorte. Et là, ils nous ont dit, écoutez, vous êtes numéro un pour vous poser à Zurich. Et après coup, j'ai calculé, on a dû prendre 4 tonnes de glace, 4 à 5 tonnes. Ouais. On n'était pas très chargé sur l'avion, mais on a dû arriver sur la partie haute de la masse maximale. L'avion volait parfaitement, hein. Pas de souci.
Oui, mais quand même.
Je le prenais à la main. Et mon copilote était quand même assez stressé. Moi, je dois dire que je brillais pas, j'y pensais, mais j'ai eu pire que ça après sur l'avion. Avec de la glace, il vole très bien. En respectant ce que le constructeur dit, il n'y a pas de souci.
Par exemple, alors, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? 4 tonnes de glace pour qu'on comprenne bien. Il peut voler avec ça. Il n'y a pas des dangers de blocage de gouverne ou de bord d'attaque?
Non, pas de blocage. Non, non, c'est l'avion, ça s'alourdit. Donc, on était en cargo, on n'était pas plein. On n'avait pas grand-chose. On était sous pilote automatique. Et là, justement, le pilote automatique, il ne faut pas laisser l'avion. Il faut regarder que l'avion ne trime pas. Donc, on passait en TCS pour vérifier que l'avion réponde bien. Il répondait bien. On avait mis tous les systèmes de dégivrage en route et les ailes étaient propres. Hein, le bord d'attaque était propre. Avec la sonde qui prenait le pare-brise avant, mais c'était du severe icing. C'était en 2005.
Tu parlais tout à l'heure, c'est quoi les points faibles de la Terre?
Les points faibles, il aurait le 72, parce que le 42-500, il vole à presque 300 nœuds, en true airspeed. Le 72, il atteint les 270-280 maxi. Ces points faibles, ça serait ça, et le manque de puissance, sur les terrains au niveau de la mer, dès qu'on approche les 35 degrés, il manque un peu de puissance, ils ont fait pas mal de choses. Moi, je pense qu'ils auraient pu, améliorer avec le temps certaines finesses de l'avion, voilà. Bon, après, il faudrait refaire un avion...
La motorisation peut-être aussi.
Ouais, revoir les ailes, refaire un cockpit beaucoup plus aérodynamique parce que moi j'aime bien le cockpit du CRJ en forme d'obus. Après, reprendre les concepts. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de constructeurs qui veulent refaire des turbopropres, qui s'inspirent beaucoup de la Terre. Les Chinois ont fait un hybride entre le Q400 et la TR-72.
Bon, ça reste quand même un avion. Alors tu veux dire que le 600, c'est une évolution qui aurait pu être encore plus aboutie?
Je pense qu'ils auraient pu. Il y a une époque, il y avait eu un projet de 82, ATR 82, avec des réacteurs. Je ne sais pas s'il n'aurait changé que les réacteurs de cet avion. C'est tombé à l'eau avec leur rapprochement avec BAE. Mm-hmm. Ils avaient les Jetstream, ils avaient BA-146 et c'est tombé à l'eau.
D'accord.
Mais ça aurait pu faire une bonne transition. Et aujourd'hui, l'avion, il est limité en longueur de fuselage, d'après l'ingénieur, je crois. Je me suis toujours demandé pourquoi on n'augmentait pas la section du fuselage qui est tronquée vers le bas. C'est pas une section circulaire, elle est tronquée. Donc si on récupérait cette section et tronquée, je pense qu'on pourrait agrandir la longueur de l'avion. On pourrait changer, je pense, mais bon, c'est n'engage que moi aussi.
Bon, il y a quand même une belle rallonge entre le 42 et le 72.
Ouais,
hein.
Ouais.
On a presque doublé le nombre de la capacité de passagers.
Il ne se pilote pas pareil. Il a une inertie qui est différente. Il ressemble plus à un avion de ligne. Il a une inertie, il faut anticiper. Le 42, c'est un Cessna, si je puis dire. Un gros Cessna. En plus, avec l'histoire de réduction, on réduit vite avec les pales. Avec les 5 pales, c'est un avion qui réduit très vite. Ça fait office d'aérofrein quand on réduit la puissance. Oui, il est assez maniable. Le 72 est un peu lourd aux ailerons quand on fait des tours de piste.
Plus d'inertie.
Il a plus d'inertie, ouais.
D'accord.
Il est lourd. C'est un camion.
Ah oui, à ce point-là.
Oui, c'est un camion.
C'est intéressant ces retours.
S'il faut chercher un, c'est un camion et l'autre c'est plus une voiture, enfin plus nerveux. Ouais. Bon, parce qu'il a pas de limitation. Enfin, c'est le 42, on n'est jamais emmerdé avec cet avion. Le 72, il faut toujours y faire attention. Ouais, elle est beaucoup plus sensible. Hein.
Ouais.
Le 42, on le monte très très vite au-dessus du niveau 200. Le 72, monté au 200 en pleine charge, c'est galère.
D'accord. Ouais. On pourrait penser le contraire hein, dans l'évolution.
Non. Ce sont des avions qui sont... Ils ont les meilleurs plafonds. Pour le 72, c'est le niveau 170 aux masses élevées. Dès qu'on descend en dessous, il n'y a plus personne à bord. Dès qu'on descend en dessous de 17 tonnes, oui, c'est pareil que le 42. On arrive au niveau 180 pour les meilleures vitesses hein, en true airspeed.
D'accord. Donc true airspeed, hein, vitesse réelle.
Vitesse réelle, oui.
Différence avec la vitesse sol.
Voilà, oui.
Et là, les plafonds, les niveaux de croisière que tu viens d'annoncer, ils sont en dessous de 200 de
oui, c'est un,
pieds.
C'est un avion.
On est en dessous des 6000 mètres.
Alors, c'est la particularité de cet avion. On est toujours dans la merde, si je puis dire. Dans le mauvais temps, on évolue entre le 170 et 180. Hein, c'est les meilleurs plafonds pour ces avions. 180 pour le 42 et 170 pour le 72, voire plus bas, hein, parce qu'après, il y a des rapports temps-distance-coût qui font que j'ai découvert qu'on pouvait faire un vol au niveau 140 si on consomme plus de carburant. Il y a un ratio, enfin bon, ça c'est les opérations qui nous calculent ça.
Alors, on va bientôt arriver vers la fin de l'émission, il y a quand même un gros pays... aussi qui a marqué ta carrière, c'est l'Inde.
L'Inde, oui.
T'as volé pour Jet Airways. Alors là,
pays des Maharajas.
Pays des Maharajas. D'ailleurs, voilà une photo.
Ah oui.
Voilà une photo au poste. Donc là, c'était
avec Jijar. Jijar, il a un turban autour de la tête. Ça peut surprendre. C'est un Sikh, un garçon très très sympathique que j'ai formé. Que j'ai eu en copilote et qui est passé commandant de bord, qui aujourd'hui est instructeur.
Alors là, en Inde, tu as fait deux compagnies en Inde, hein. Alliance Air, Jet Airways.
Alors, Jet Airways, ça a été le premier tour en Inde en 2010, après le Soudan. Mm-hmm. 2010-2012, où il y a eu une baisse d'activité. Donc, l'Inde.
Belle image là, de Raphaël devant sa machine.
Oui, c'est Sumit, un de mes copilotes qui adorait la photo, qui m'a dit « Allez, je vais faire des photos » et ça m'a permis d'avoir des photos superbes.
Alors, l'Inde, donc pareil, là, tu prends connaissance d'une mission là-bas ? Comment ça se passe ?
Non, c'est transport de passagers. C'était une grosse compagnie. Hein, ils avaient...
Oui, mais t'as postulé ou on est venu te chercher ?
J'ai postulé.
Ouais, d'accord,
J'ai postulé, j'ai vu une offre, j'y suis allé. Ouais. Et c'est le chef pilote qui faisait les sélections à Amsterdam.
Alors la sélection, avec ton expérience, là, ça se passe comment une sélection pour Jet Airways, pour l'Inde ? C'est un peu comme les autres pays.
C'est un tour de simulateur, un décollage, un retour, un ILS, une panne moteur, et puis en gros, c'est
c'est tout, il voit ce qu'il veut voir, hein. Il cherche quelque chose, et ça lui plaît pas. Et on discute de l'avion éventuellement sur certaines caractéristiques de l'avion.
Même question que pour tout à l'heure, oui. Voler en Inde par rapport à l'Algérie, le Gabon, l'avion en équipage, les procédures, la maintenance, tout ça.
C'était une compagnie très très structurée, ouais. Avec une grosse compagnie avec des 330, hein, des 777, des Boeing 737, et ils avaient 20 ATR. On faisait du domestique avec, et je me suis retrouvé donc à voler pendant la mousson. La mousson en Inde. C'est pas l'Afrique. Voler dans la mousson, c'est des trompes d'eau. J'ai pas eu de gros orages là-bas. Il m'est arrivé de faire un détour. J'ai été le seul, d'ailleurs, ce jour-là, à me poser à Chennai, à ne pas pouvoir intercepter l'ILS. Donc il a fallu que je remonte sur 50 nautiques, hein, à cause de nuages qui étaient tellement serrés. Ça, je m'en rappelle, j'étais remonté au nord-est de Chennai pour intercepter la finale. Et les avions qui attendaient un peu partout. Et donc, j'ai l'impression de voler dans un sous-marin tellement qu'il pleuvait. Et ça a flashé toutes les 10 secondes. Donc ça a été un moment intense avec cet avion. Et ben, mon copilote était tétanisé, mais je lui ai dit, t'inquiète pas. Et il a repris confiance et il m'a dit, c'est Captain, je vous suis. C'était marrant. Je lui ai dit, t'inquiète pas, c'est un très bon avion. Après l'Afrique, je lui ai dit, t'inquiète pas, on va passer à travers ça, on va se poser. Et on s'est posé avec un détour qui a dû osciller à 80 nautiques. Hein. On ne pouvait pas passer. Là, c'était les plus gros orages de mousson en Inde du Sud. Et on était les seuls à se poser ce jour-là. D'ailleurs, ils sont posés après coup. Ils ont essayé à contre-piste. On ne pouvait pas à cause des vents. Et ça a été un peu mémorable. Voilà, dans les orages du Bengale. Enfin, les feux de Bengale, dans le golfe du Bengale, si je puis dire.
Souvenir marquant de l'Inde, ça, les moussons. Donc comment ça s'est terminé, en fait? Vous avez fait un détour, vous êtes revenu, vous avez fait plusieurs tentatives?
On a contourné, il se trouve que l'axe de percée de l'ILS était complètement obstrué par des... Ça, on était gênés par une... Il suit le littoral, l'ILS, hein. En fait, pratiquement nord-sud, hein, la pointe de l'Inde. Avec le relief, je pense qu'il y avait des formations nuageuses dues au relief et à la mer, qui était mais d'une violence, et donc j'ai contourné tout ça pour trouver un trou, et je suis passé au moins 40-50 nautiques au nord pour redescendre, et le contrôle me laissait faire, on s'est posé, voilà.
Donc non, quand tu dis que vous n'arriviez pas à intercepter l'ILS, donc l'atterrissage guidé, hein, aux instruments, c'était une question de distance, parce que vous ne pouviez pas passer le grain, cet énorme grain...
C'était du rouge, ça claquait tous les côtés, c'était sans discontinu, ça s'arrêtait pas des éclairs. À un moment, je me suis dit, on est où? Je voyais de la lumière sans arrêt, d'orage. Chose que j'ai jamais vue. C'est impressionnant, c'était dur à imaginer. Et des trompes d'eau, mais... Je me rappelle que je chantais Yellow Submarine pour la chanson des Beatles. J'ai dit, ouais, Yellow Submarine, parce qu'on était jaune sur l'avion. Et mon copain me regardait, je dis, ouais... On est dans un sous-marin, non? Et on était fatigués, c'était le soir, je m'en rappelle. Donc il y avait une certaine inertie, surtout. Ça, c'était mémorable, oui. Mais il m'est arrivé, j'étais avec un nouveau capitaine, ça c'était, je fais un petit retour sur chez Avirex, on se posait à Port-Gentil, et il y avait un orage, mais alors là, je l'ai vu qu'une fois, je ne l'ai pas revu après, peut-être à cause du changement climatique, mais il y avait un front, et je regardais les nuages qui ne terminaient pas, j'avais l'impression qu'ils terminaient dans l'espace, le petit ATR 42 à côté, et il y avait 500 km de nuages à passer, et il fallait qu'on passe, on n'avait pas le fuel pour pouvoir faire des détours, et je dis à mon capitaine, qui était un ancien sur Mirage 2000, je lui dis, t'inquiète pas, il est bon le radar, le peu d'expérience que j'avais à l'époque, j'avais 250 heures, je lui dis, il est bon ce radar. Et on est passé à travers, on est passé dans un trou de souris, parce que le trou de souris s'est refermé, et là on est devenu on est tombé dans la ratière, si je puis dire, et là on a compris qu'on allait être secoué, on a été secoué. L'avion a été pris dans une machine à laver, on a entendu les gens, on avait prévenu le stew, et on entendait les gens derrière qui criaient. Et on essayait de maintenir et passer à travers ce front. Et après, le silence avec, j'ai des photos d'ailleurs, le silence avec la lagune, une lagune, enfin c'était tellement inondé, la savane. Et on est arrivé à Port-Gentil, on s'est posé, et bon, l'avion avait été nettoyé de toute la boue qu'on pouvait avoir, parce qu'on se posait sur des pistes... enfin, des tranchées dans la forêt sur des pistes pas du tout standard à l'époque, ça j'en ai pas parlé. C'est aussi un mauvais souvenir de chez Avirex, un mauvais bon souvenir parce que c'était l'aventure, mais quand même on aurait pu avoir des problèmes.
C'est-à-dire des pistes pas standard, c'est-à-dire
Des pistes au bulldozer dans la jungle, donc il faut s'imaginer ça. Et moi j'étais copie à l'époque.
Là j'ai encore une autre photo en Inde là. Voilà. Donc là c'était chez Air Alliance, hein, je crois.
Alliance Air.
Oui, oui. Une autre compagnie à
sur 600,
indienne sur la Terre, voilà, 72-600.
Oui.
Donc voler, t'as fait des.
Alors là
t'as
on a
sillonné un peu là-bas sur l'Himalaya, non
Oui.
Parce que c'est plus haut que le plafond de la Terre.
Alors j'ai refusé de faire des vols au cœur de l'Himalaya. J'ai fait un jump seat dans les vallées de l'Himalaya. Il n'y avait pas d'études, à mon goût, il n'y avait pas d'études sécuritaires. Et le jour où j'ai fait mon jump seat.
Tu as fait un jump seat ?
J'ai fait un jump seat de découverte de ligne parce qu'ils voulaient me faire les vols et l'instruction là-bas. Découverte de ligne. Donc le terrain ne m'inspirait pas confiance. J'avais calculé des choses qui ne correspondaient pas en passagers. Ils partaient avec des passagers en plus. J'ai vu qu'après, ils avaient corrigé le nombre. On arrivait avec une vingtaine, une trentaine de passagers, et on repartait avec 25 passagers maxi, et moi j'avais calculé une vingtaine de passagers avec les performances de l'avion. Donc c'était très très léger. Aujourd'hui, ils ont pris du 42-600 pour faire ces lignes-là, et je pense que c'est plus raisonnable, parce que 72, en 4 pas de moteur, on ne pouvait pas respecter les angles de virage. Voilà, et on était obligé de se poser dans un sens et décoller dans l'autre.
Il faut rappeler que là-bas, il y a beaucoup de vallées engorgées.
J'ai une vidéo.
Et que pour se dégager d'une vallée, il faut avoir de la place pour tourner, faire demi-tour éventuellement.
Voilà, sur un moteur, ça passe pas.
C'est du vol montagne, tout simplement.
Ouais, c'est du vol montagne, ça passe pas. Ouais. Enfin bon, ça n'avait pas été pris en compte. Et...
Bon, c'est passionnant, on a une photo sympa aussi de toi là en Inde, là, lors d'une escale, j'imagine, ta machine.
Ouais, ça c'était c'était dernièrement, c'était il y a 3 ans.
Alors, bon, on pourrait vraiment rester encore longtemps à parler de tes voyages. Mm-hmm. Je voulais juste revenir sur tes traversées d'orage, là, de mousson, là. Toi, c'est la première fois que tu vivais ça ou... Enfin, comment tu...
Non, les moussons,
je gère un peu le stress. Enfin, t'es pas un pilote, t'es pas originaire de l'Inde. T'as volé, bon, après, t'as volé partout, t'as eu... Bon.
Alors, pour un petit retour sur l'aviation légère, quand je faisais des convoyages pour mon aéroclub sur rallye, j'ai le souvenir d'avoir été pris dans un cunimbe avec un rallye. Je devais amener l'avion, je faisais mon 6 militaire, et j'ai amené l'avion à Beaune, ça je m'en rappelle. L'avion qu'on m'avait... c'était un rallye, oui. Et pour gagner du temps, j'étais passé un peu près d'un cunimbe, ce qui m'a valu de me retrouver le cul en l'air, enfin la queue verticale à l'opposé de ce qui aurait dû être, et piquer manche en avant avec la vitesse maximale, avec la puissance, et mon avion montait à... J'étais en vario bloqué. Je m'en rappelle, j'étais manche sur le sol, je voyais la terre, puissance maximale. Et mon avion montait, bon, je suis sorti de la...
Donc en fait, pour expliquer, il montait parce qu'il était aspiré, quoi.
Il était aspiré,
c'est
une usine.
C'est ça, les ascendances, ouais.
Je les connaissais très bien.
C'est même plus que les ascendances.
Parce qu'en planeur, et puis j'avais largué des... On m'avait demandé de me rapprocher plusieurs fois de lignes de grains. J'avais eu en planeur des montées incroyables, des varios d'ignes d'avion de chasse. Et là, je me suis retrouvé donc là-dessus. Et ça m'a fait prendre conscience triplement de tout ce qui est orage. Donc c'était mes premières approches du mauvais temps. Les orages sous nos latitudes, parce que j'en ai rencontré après en faisant du cargo sur les Baléares, ça a été les pires orages sur les Baléares. Je dois dire qu'en Afrique, ça m'a pas marqué plus que l'expérience chez Avirex avec le FIT à traverser, ça oui. Mais il y a toujours une solution. On peut toujours traverser, et puis il faut, avec le radar de l'avion, on arrive toujours à s'en sortir, et puis à trouver le meilleur compromis. Hein. Quand il faut y aller. Je vois des... Après, la précaution, oui, on a des passagers, il faut pas... À des moments, on ne peut pas faire autrement, et puis voilà. Hein.
Passagers, je reviens à la ligne en Inde, la rigueur, tout ça, c'était des compagnies aériennes tout à fait...
ça manque un peu de structure. Alliance par rapport à Jet Airways, qui est une vraie compagnie. Alliance plus Aéroclub. Quand je suis arrivé aux opérations, quand je suis arrivé dans le bâtiment d'Alliance, j'ai quelques collègues qui pourront en parler, j'avais des pigeons qui volaient dans ce qui ressemblait à un Aéroclub, avec des dossiers sur des tables dans tous les sens. Hein. Des pigeons, dans la superstructure du bâtiment.
Pour conclure, Dernière petite question, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes ? Ce métier de pilote fait rêver. Alors beaucoup, tout le monde rêve de rentrer chez Air France. On peut aujourd'hui faire tout ce que tu as fait ? C'est un bon choix d'aller à l'étranger ? Je pense qu'il faut un état d'esprit, c'est un choix de vie.
C'est un choix de vie. On peut tout faire. Aujourd'hui, faire ça, je ne sais pas si c'est aussi facile. Bon, l'ATR est un avion qui n'est pas aimé à l'étranger parce que c'est l'avion turboprop et c'est un peu un déshonneur. Donc il y a une niche, il y a toujours du boulot sur cet avion. J'en ai toujours eu. J'en ai eu plus que certains amis sur d'autres avions. Pour ceux qui aiment piloter, je pense que c'est le meilleur compromis. Maintenant, l'Asie, où il y avait du boulot, l'Afrique, ça change. Il y a beaucoup de locaux qui se forment et qui embrassent la profession. Notamment en Europe aujourd'hui, je pense que se recentrer sur l'Europe, il y a de belles carrières à faire. Il faut être flexible et puis pour ceux qui veulent la tranquillité, un petit confort, il y a toujours la compagnie nationale qui est une belle compagnie. Hein. C'est une très belle compagnie en France. Et d'autres compagnies qui manquent, Air Caraïbes aussi, Corsair.
Il y en a pour tout le monde.
Ouais. Il manque des compagnies quand on regarde par rapport à d'autres pays. En France, on est pauvre. On est pauvre en choix. En Espagne, il y a beaucoup plus de choix, je trouve, et en Angleterre. Et après, pour l'aventure, la pilote de brousse, on peut toujours aller faire du Cessna. Et puis, il y a l'Indonésie aussi. On n'a pas parlé de l'Indonésie où j'ai été, où j'ai beaucoup adoré.
Bon, en tout cas, merci Raphaël. Merci à tous.
Merci beaucoup.
À bientôt. Merci encore, Raphaël. On se revoit avant dans 20 ans. Hein.
Pas de problème.
Ciao.